France Inter.
Jean-Baptiste Delamo et Mathieu Blais, bonjour à tous les deux. Bonjour. Mathieu Blais, pourquoi écrivez-vous ?
J'écris pour agir sur le monde.
Et vous, Jean-Baptiste Delamo ?
Pour apprendre à saisir quelque chose de notre humanité, je crois.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre, Jean-Baptiste ?
Voyage au bout de la nuit, certainement.
Et vous, Mathieu Blais ?
Oh, sans hésitation, ce serait la vie dans les bois ou encore la route.
Une qualité indispensable pour écrire, Mathieu ?
Être observé et écouté, ce sont les deux conditions essentielles.
Jean-Baptiste ?
La persévérance.
Et un défaut ?
Être obsessionnel.
Et vous, Mathieu Blais ?
Intransigeant.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassem.
Bienvenue dans l'émission Etc. Aujourd'hui, deux auteurs à la marge. Et si j'emploie ce terme, c'est parce qu'ils nous surprennent de livre en livre et s'intéressent précisément aux zones de rupture de la société. Les failles, les bordures, les êtres relégués. L'une des premières marges, c'est la jeunesse, que le romancier Jean-Baptiste Delamo dépeint avec talent dans son roman La Nuit Ravagée. Un livre à la fois horrifique, onirique et social, où l'on suit une bande d'adolescents dans un lotissement de banlieue. La banlieue étant aussi une marge. Tous sont désabusés, malmenés, en quête d'échappatoire dans un monde qui les ignore ou les écrase, jusqu'au jour où ils vont faire la rencontre d'un personnage essentiel du livre, une maison abandonnée qui exerce une certaine fascination sur eux. Dans Brûler debout, sorte de western moderne déglingué, l'auteur québécois Mathieu Blais donne lui aussi corps à une jeunesse en marge. Il situe son intrigue dans le nord canadien, au sein d'un camp forestier où des jeunes exploités finissent par prendre les armes contre l'ordre établi avant de fuir. Pour l'un comme pour l'autre, le foyer fait figure de cauchemar. Chez Jean-Baptiste Delamo, il s'incarne dans la maison qui, loin d'être protectrice, devient un espace de peur, de monstres, de traumatismes refoulés. Chez Mathieu Blais, le campement se fait lieu d'exploitation brutale, de désespoir et de révolte. Vous l'aurez compris, il sera question de colère sourde dans cette émission et de la violence comme ultime langage. Nous retrouverons enfin, et comme chaque semaine, nos libraires pour leurs questions et conseils de lecture. Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Jean-Baptiste Delamo et Mathieu Blais, rebonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Dans mon introduction, je parlais de marginalité. Est-ce que cet adjectif marginal vous convient, Mathieu Blais ?
Oh oui, j'écris dans la marge depuis toujours. Je me considère moi-même comme un marginal. Tout ce que j'ai écrit depuis que j'ai commencé à écrire, c'est cette exploitation, cette exploration de la marge pour justement constituer, faire entendre ses voix.
Et vous, Jean-Baptiste, c'est un mot que vous aimez ?
Oui, j'aime aussi cette idée de marge, de limite. J'ai l'impression que le travail même de l'écriture, il doit nous conduire à cet extrême-là. Et à travers ce livre, j'avais envie d'explorer, effectivement, comme vous le disiez, cette question des marges et du territoire en marge aussi.
Et comment on fait pour travailler cette question de la marge en littérature ? Comment on fait pour sortir des sentiers battus ?
Déjà, j'ai le sentiment qu'il faut être fidèle à soi-même et à ses obsessions. C'est-à-dire qu'il faut être capable de puiser suffisamment profond en soi pour atteindre ses propres marges, ses propres limites, les limites de son imaginaire aussi. Et en sondant un peu cette forme d'abîme, on arrive peut-être à trouver une singularité.
Jean-Baptiste Delamo, La Nuit Ravagée est votre sixième roman, après une éducation libertine, Goncourt du premier roman, Règne animal ou encore Le Fils de l'homme. Chacun de vos livres évoque à sa manière une forme de transmission de la violence, qu'elle soit héréditaire, sociale ou charnelle. C'est volontaire ou c'est inconscient ?
Je crois que ça a longtemps été inconscient, et puis de texte en texte, j'ai aussi compris ce sur quoi je travaillais, quelle était ma matière. Et avec Le Fils de l'homme, j'ai eu le sentiment, peut-être justement d'en finir avec cette question, au moins de la transmission de la violence de père en fils. Il y avait quelque chose qui était allé au bout avec ce livre-là. Et même si cette thématique, elle ressurgit dans La Nuit Ravagée, je crois qu'elle apparaît différemment, de manière peut-être plus collective et à travers l'adolescence.
Il faut une dose de violence pour écrire ?
Oui, certainement. En tout cas, il me semble difficile aujourd'hui d'explorer ce qu'est notre humanité en faisant fi de la violence.
Mathieu Blais, Brûler debout est un titre puissant. Le feu est partout dans votre roman et Brûler debout résonne comme un hymne de résistance. L'écriture a à voir avec l'esprit de résistance, selon vous ?
Je pense effectivement que c'est un acte de résistance nécessaire contre le silence du monde ou au contraire contre le trop de bruit que le monde génère actuellement, la littérature finit par être une parole qui s'assoit et qui donne au lecteur le temps de réfléchir. C'est déjà un acte de résistance extraordinaire si on permet au lecteur de réfléchir, d'avoir cette réflexion-là.
Vous écrivez entre parenthèses avant même que le livre commence, parce que personne n'était né pour ramper. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ?
Ben, en fait, il faut comprendre que dans Brûler debout, les protagonistes vont mettre le feu à l'entièreté de la société. Ils vont mettre à terre cette société, tant les institutions que tout ce qui s'oppose à eux. Ils sont en colère, bien sûr. Donc, cette idée de ne pas être né pour ramper, c'est justement refuser. C'est ce refus qui vont faire que cette société fait peser sur leur épaule. Je ne sais pas, la violence sexuelle, la violence économique, la violence qu'ils vont ressentir, la violence de classe qu'ils vont ressentir et qui, à partir de là, vont exprimer un non. Et ce non va se transformer dans ce désir de se mettre debout, finalement. Ils vont brûler, donc ils vont brûler debout.
Jean-Baptiste Delamo, Mathieu Blais, on se retrouve dans quelques minutes pour entrer plus en détail dans vos romans. Mais avant ça, on écoute Giorgio sans surprise.
Sur le maillot, ma génération c'est la fierté des nôtres. Pas tous soudés, pas tous la main sur l'épaule. Merde, bien trop d'égo pour dire je t'aime, à croire qu'aimer c'est faible. Regarde la peur, elle a baisé des rêves, elle a créé des traîtres, elle t'a obligé à garder tes chaînes. Pas trop sans épines, je ressens le désir, baiser la vie, lui faire des gosses. Une grande famille qui m'interroge avant de partir, sans grande éloge. Papy des îles, grand-mère d'ici, double culture, double pays, des disques d'or. Et même encore dans les médias, ça sent le mépris, c'est nous les barbares. Trois sur un vélo, cinq au studio en train de chanter la mélo. On fonce matrixé, fier de rentrer à la maison et de cacher un zéro. Masculinité, fallait savoir boxer ou savoir rouler gros jet de caramelo. Né pour courir sans partir en héros. Un cœur plein de peine. La vie se passe comme prévu. Un cœur plein de peine. La vie se passe comme prévu. Un cœur plein de peine. La vie se passe comme prévu. Un cœur plein de peine. La vie se passe comme prévu. Grâce à l'amour, suffit d'un rien pour que ce soit le plus beau jour de ma vie. Puis suffit d'un rien pour que ça s'arrête. Suffit d'un rien pour que moi aussi, je pense à faire souffrir la planète. Paris, l'hiver, c'est la tannée. Quitte à cailler, je préfère être dans un igloo. Que de me référer à mes anciennes idoles qu'espèrent tous éviter un MeToo. Obligé de changer des films qui m'ont fait. T'as vu, on s'est trompé. Résultat à cause des décès et des larmes. Les chambres, nos darons sont inondées. Nouvelle année, nouvelle conscience. Nouveau combat, nouveau moteur, nouvelle essence. Je me rapproche de mes cinq sens. Je me connecte aux absents. Un cœur plein de peine. La vie se passe comme prévu. Un cœur plein de peine. La vie se passe comme prévu. Un cœur plein de peine. La vie se passe comme prévu. Un cœur plein de peine. La vie se passe comme prévu.
Vous écoutez Etc. et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Baptiste Delamo et de Mathieu Blais. Jean-Baptiste Delamo, dans votre roman La Nuit Ravagée, vous racontez l'adolescence d'une bande de jeunes, cinq jeunes au début des années 90. Et pour ça, vous mélangez le réalisme social et un genre un peu plus horrifique. D'où vient ce titre, La Nuit Ravagée ?
Pour moi, c'est un titre éminemment poétique que je suis un peu réticent à trop expliquer. J'ai l'impression qu'à la fois, c'est la nuit concrète, celle que ces adolescents vont devoir traverser à l'opposition du jour, lorsqu'ils passeront la porte de cette maison abandonnée. Et puis, c'est aussi plus largement, je crois, à la fois la nuit de toute adolescence, de ce moment où on se confronte à la réalité, à la violence de l'âge adulte. Et puis, c'est la nuit de ces années 90 aussi, où je crois qu'on a commencé à sentir peser sur nous une forme de menace sourde.
Vous parlez de quoi des années SIDA ?
évidemment les années SIDA, des années aussi qui politiquement ont été une forme de désillusion pour l'électorat de la gauche, des années qui ont été celles de l'installation du Front National en France.
On en est sorti de cette nuit ?
Non, je pense que non seulement nous n'en sommes pas sortis, même si on a pu croire pendant un temps qu'on s'en était échappé, je pense qu'on y replonge avec d'autant plus de violence aujourd'hui. Et c'est pour ça que certes, c'est un livre sur les années 90, mais pour moi, c'est aussi éminemment un livre qui parle de ce qu'on traverse collectivement aujourd'hui.
Oui, moi j'avais lu La Nuit comme lieu de l'enfance, effectivement, du cauchemar. Est-ce Absolument. Qu'on doit y voir aussi un état intérieur, une chute dans l'obscurité dont l'écriture cherche à sortir ?
Alors certainement, pour puiser la matière de ce type de roman, je crois de tout roman d'ailleurs, il faut se tourner du côté de cette nuit intérieure. Il faut oser s'y aventurer, il faut aller chercher quelles sont nos peurs intimes, nos obsessions, tenter de leur donner forme aussi, tenter de les nommer. Et peut-être éventuellement, lorsque le livre prend forme, il permet de nous en extraire, en tout cas de les dépasser.
Qu'est-ce qui vous fait peur à vous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je pense que mes peurs, bien évidemment, ont évolué avec le temps. Je crois que ce qui m'effraie, c'est l'état de notre monde, de notre capacité à être ensemble, et de façon bien plus intime, certainement, la peur de mes proches.
Et ce roman, vous avez mis combien de temps à l'écrire ?
Alors, j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre. En réalité, plus de temps que je ne le crois, puisque j'ai d'abord, après Le Fils de l'Homme, commencé un projet que j'ai choisi d'abandonner parce qu'il me semblait que je répétais les mêmes formes, les mêmes partis pris formels que précédemment.
Il y a beaucoup de romanciers qui ne s'encombrent pas de cette
question. C'est vrai. Et je pense d'ailleurs que c'est une bonne chose de creuser ses obsessions et d'être capable d'accepter la répétition. Simplement, moi, j'étais arrivé à un temps de mon parcours où je sentais le besoin d'une forme de renouveau, de parler peut-être curieusement plus directement de moi aussi, même si c'est à travers le prisme du genre, d'aller puiser dans ma propre vie, dans ma propre adolescence. Et puis j'avais besoin aussi de retrouver un rapport ludique à l'écriture. Ce plaisir finalement que j'avais à la lecture quand j'étais adolescent et que je pouvais lire des bouquins de Stephen King jusqu'à des heures impossibles.
Comme moi. Est-ce que vous écrivez parfois à partir de vos rêves ?
Surtout ce livre-là. Ça, il s'est passé un truc vraiment intéressant avec ce bouquin. Bien évidemment, il y a des moments où je me suis retrouvé dans l'impasse narrativement, où j'ai calé, où j'ai eu des moments de panne sèche. Et j'ai toujours trouvé des résolutions dans cet état entre la veille et le sommeil, où finalement, je pense que on a cette capacité à se connecter à une forme d'inconscient et aussi au livre qui prend forme, à cette espèce de magma encore innommable. Et très souvent, voilà, les résolutions me sont apparues en rêve, en effet.
C'est vrai, parce qu'il y a quelque chose d'un peu kafkaïen aussi à certains moments. Il y a plein de métamorphoses, mais l'adolescence est un âge de métamorphose.
Absolument, absolument. Et pour parler de cette heure de l'endormissement qui nous révèle finalement d'autres possibilités, c'est ce que Proust appelait l'heure véridique. Et je pense qu'il y a quelque chose de bien concret là-dedans. C'est qu'en fait, il y a une forme de vérité qui peut nous apparaître. Alors encore faut-il être capable de se réveiller pour noter à temps les idées qui nous sont apparues. Mais ça m'a vraiment guidé pour ce texte.
C'est pour ça que c'est intéressant de passer par le genre pour parler de soi. C'est
absolument,
précisément pour cette raison.
Tout à fait, je pense qu'à travers le genre, déjà il y a une matière préexistante qu'il faut être capable de reformer, de reformuler, de recréer. Et bien évidemment, ça ouvre aussi la possibilité de se dissimuler autrement, de se présenter autrement, de jouer avec des masques. C'est très, très excitant pour un auteur.
Alors dès les premières pages, on est happé. Et j'aimerais que vous nous lisiez tout de suite un passage du début du livre. Le personnage de Simon fuit, il court, il entre dans une maison, il ferme la porte, quand soudain il voit une chose par la fenêtre, la chose.
Un dernier trait de jour s'écoulait dans la pièce par deux fenêtres qui donnaient sur l'avant de la maison. Il s'approcha de l'une d'elles pour observer l'allée. C'est alors qu'il vit la chose. Elle se tenait debout devant le portail, le regard levé vers lui, et elle lui souriait. Il eut la sensation qu'une main lui en serrait le cœur et le faisait éclater comme un fruit trop mûr. Il battit en retraite dans l'ombre de la chambre, sachant qu'il était trop tard, qu'elle l'avait vu et savait précisément où le trouver. Il se tint immobile et scruta le silence épais de la maison. Il entendit la poignée de la porte d'entrée s'abaisser à plusieurs reprises, puis ce fut le silence de nouveau. Il suspendit son souffle, se demanda s'il était possible que la chose ait renoncé. Mais non, il savait. Il savait ce qu'elle était en train de faire. Elle était en train de contourner la maison pour trouver une faille, un moyen de se glisser à l'intérieur. Et il passa mentalement en revue chacune des portes, chacune des fenêtres, se demandant s'il les avait bien fermées, s'il n'avait pas oublié de... Le chuintement de l'une des baies vitrées du salon coulissant sur son rail lui répondit. Un son strident, comme un cri animal de satisfaction, perça le silence. Des talons plats résonnèrent sur le carrelage. « Je suis rentré !» dit la voix de sa mère. Le garçon tressaillit, plaqua une main sur sa bouche et se mit à pleurer sans bruit. « Simon, je sais que tu es là !»
Pourquoi avoir voulu ouvrir votre roman avec cette scène terrifiante.
C'était important pour moi d'indiquer au lecteur ce dans quoi il mettait les pieds, d'assumer immédiatement le genre. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de livres ou de films qui ont tenté d'approcher le genre, mais sans oser véritablement l'assumer. Et pour moi, le genre, et en particulier le genre horrifique, c'est un acte de foi en la fiction. Il faut y croire, il faut y aller. Donc j'avais envie de montrer au lecteur que j'allais assumer mon projet, qu'il mettait les pieds dans un roman horrifique, avant bien sûr, ensuite, de pouvoir développer de multiples aspects de la vie de mes personnages.
Alors vous faites très souvent référence à Stephen King et j'ai entre autres pensé à Carrie, son tout premier roman publié en 1974, l'histoire d'une adolescente en pleine métamorphose, on parlait de métamorphose tout à l'heure, avec une mère horrible. La figure de la mère qui devient une menace à rebours de l'image traditionnelle du foyer protecteur, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé pour ce livre ?
Bien sûr, je crois que pour des enfants ou pour des adolescents, l'idée que les parents, que la cellule familiale puisse devenir l'incarnation de la menace, c'est ça qui est véritablement terrifiant. Et Stephen King, il a excellé là-dedans. À la fois nous dépeindre des communautés, des familles, des enfances et des adolescences, et aussi, il faut le dire, un certain nombre de personnages féminins absolument incroyables dont Carrie fait partie.
Alors il y a la maman, mais aussi la maison, on reste dans le foyer, une maison abandonnée qui fascine vos ados, votre club des cinq, et vous écrivez « Au fond de l'impasse, plongée dans son repli sombre, la maison abandonnée était à peine visible, sépulcrale, et Alex eut le sentiment qu'une tristesse infinie s'en dégageait, que le pavillon déserté matérialisait soudain cette peine vertigineuse dont il ne percevait pas encore les contours, ce gouffre de solitude et d'abandon. Dans le même temps, il fut traversé par l'idée, la conviction, improbable qu'il pourrait trouver ici un soulagement à sa souffrance, que cet endroit pourrait en être le réceptacle et qu'il lui suffirait pour cela d'en franchir la porte. De quoi cette maison est-elle le nom ?
J'aimais l'idée que cette maison, elle puisse leur permettre à ces ados de projeter quelque chose de leurs désirs et de leurs peurs les plus intimes, les plus secrets. Et ce faisant, elle agit finalement comme un livre pour son auteur. Je crois que c'est vraiment une forme de métaphore d'incarnation de l'écriture, et éventuellement aussi pour le lecteur. Bien évidemment, quand le livre est écrit, il impose une forme d'imaginaire au lecteur, mais il laisse quand même l'espace pour celui-ci de projeter quelque chose de sa sensibilité, de son propre imaginaire.
Donc vous, votre maison, c'est la littérature ?
Ah clairement, ouais. Et ce roman en particulier, parce que ce roman, il parle bien évidemment des peurs et des rêves de ces adolescents, mais qui ont été les miens pendant mon adolescence.
On sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écrire.
Un plaisir immense. J'ai retrouvé vraiment un rapport ludique à l'écriture que je n'avais pas éprouvé, je crois, peut-être depuis l'écriture du premier roman, d'ailleurs. Et j'avais vraiment dans l'idée de transmettre cette joie aussi de lecture au lecteur.
Alors dans la plupart de vos livres, Jean-Baptiste Delamo, la famille est à l'origine du mal. À la famille biologique, est-ce que vous préférez la bande, la bande d'amis ?
Je ne sais pas si je préfère la bande d'amis. Ce qui est certain, c'est que les amitiés sont très importantes dans ma vie. Et que je crois que finalement, cette représentation un peu caricaturale de la famille comme seul lieu de l'expression de l'amour est une forme de mythologie, en fait, qui m'intéresse de déconstruire, parce que je pense que la famille, à la fois, c'est quelque chose de très intime et de très collectif, que quelle que soit la forme de la famille, nous en avons tous ou moins plus une. Mais de manière plus symbolique, elle parle aussi de notre capacité d'être ensemble et de ce qui fait société aujourd'hui.
Mathieu Blé, vous préférez la bande d'amis. Est-ce que la famille, c'est celle qu'on se choisit, Mathieu Blé ?
Ben, dans le roman, en tout cas, c'est certain que c'est un choix. Et je pense que dans le roman de Jean-Baptiste Delamo, si vous me permettez, je pense que c'est aussi un choix. Les adolescents se choisissent et finissent par affronter ensemble cette société. Ils sont plus forts en gang, ça c'est sûr. Et à partir de là, ben, ils se créent cette espèce de fraternité, cette espèce de capacité traversée, affrontée. Ben non, avec Jean-Baptiste Delameau, c'est l'horreur. Dans le mien, c'est la société, la société de violence, la société d'extraction, la société qui nous viole finalement tout le temps.
Mathieu Blais, est-ce que vous avez grandi avec, avec des amis ou vous étiez plutôt un adolescent solitaire?
J'ai grandi avec des bandes, oui. J'ai grandi avec des bandes, mais avec plein de bandes. Oui, mais je suis... Aujourd'hui, je suis devenu un solitaire. Et j'assume tellement cette belle solitude qui me permet d'aller dans les bois et d'aller dans l'écriture aussi. Donc...
Vous parlez beaucoup des forêts, hein, quand même, depuis le début.
Ben, ça fait partie de mon horizon de sens. Oui, c'est mon lieu de retranchement. C'est le lieu d'enracinement du Brûlé debout. Donc.
Jean-Baptiste, vous avez grandi avec, avec des amis ou vous étiez plutôt solitaire?
Non, j'ai grandi avec des amis. J'ai grandi dans un lotissement qui est sensiblement l'exacte copie de celui du livre. Mais cependant, c'était quand même dans cette zone à la marge qui était à proximité immédiate de la nature et de la campagne. Donc, j'avais aussi tout cet espace possible de contemplation des animaux, de la nature autour et qui m'a permis de développer une forme d'imaginaire poétique aussi très lié à la nature en définitive.
Et très sensoriel aussi.
Ouais, ouais, absolument.
Jean-Baptiste Delameau, vous avez été lu par notre libraire Benoît Autier qui est en studio avec nous. Benoît Autier, bonjour.
Bonjour Lilia.
Alors vous travaillez à la librairie des Batignolles dans le 17e et je sais que vous êtes ravi de rencontrer Jean-Baptiste Delameau.
Tout à fait. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Effectivement, très heureux d'être ici pour vous témoigner tout le plaisir que j'ai eu à la lecture de votre livre. Ça a été un moment un peu particulier, comme lorsqu'on retrouve des choses qui sont celles du passé et dans lesquelles on replonge. Effectivement, je suis un peu plus vieux que vos personnages, mais j'ai connu la même période. J'ai retrouvé les codes de l'époque. Et en retrouvant ces codes, j'ai vraiment eu l'impression de basculer dans un passé qui me rappelait plein de moments que j'ai connus. Comme quand j'avais lu Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, j'ai retrouvé cette période-là avec l'insouciance de l'adolescence. Certains de vos protagonistes, qui sont peut-être les calques de certains de vos amis, moi, m'ont fait penser à des copains qui, dans le passé, pouvaient lire Masterton et Lovecraft, pouvaient parler d'âme blanche pendant des nuits entières ou de légendes urbaines, et qui véhiculaient tout ce que la littérature horrifique peut créer, en plus du cinéma. Donc, cette lecture, ça a été l'occasion de plonger dans mes souvenirs et de retrouver ce goût inachevé que l'adolescence offre.
Et Benoît, au-delà du côté Madeleine de Proust, vous avez surtout été bluffé par le style et l'audace de Jean-Baptiste Delameau.
Alors moi, c'était la première fois que je vous lisais. C'est pas bien pour un libraire qu'à mon âge, mais c'était le cas. J'ai été assez fasciné, effectivement, par la facilité, voire la maestria dont vous bénéficiez pour pouvoir raconter une histoire comme ça. D'abord dans un style très classique, mais qui appuie, en fait, votre propos, je trouve, énormément. Je trouve que vos références nombreuses, musicales, cinématographiques, apportent quelque chose. Rien ne manque, en quelque sorte. Et la fluidité de votre langue, c'est vraiment un grand plaisir de lecture. Donc ça, c'est rare.
Merci, j'ai bien fait de venir.
Pas tout le temps.
C'est vrai qu'il ne le dit pas tout le temps, ça.
Non, non. Moi, je n'ai jamais lu Stephen King. Mais je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes à la fois dans le fantastique et dans son écriture. Le lien entre l'adolescence et le fantastique se répondent constamment dans votre texte. Et à l'instant, vous parliez avec Lilia du rôle de l'adolescence et de la cellule familiale. Je me demande si l'adolescence, c'est pas le moment de casser la cellule familiale pour découvrir autre chose à travers les autres. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très fort dans votre texte. Parce que cette période trouble, c'est le basculement vers le monde adulte. Et c'est ce que le fantastique propose, une réalité entre deux, qui nous fait quitter l'enfance et nous fait basculer vers le monde adulte. Et je voulais savoir si pour vous, ça avait été vraiment une dominante que vous aviez choisie narrativement, ou si c'est retombé sur ses pattes, grosso modo, comme ceci.
Non, non, c'était très important, je crois, pour ce projet de livre. D'ailleurs, je ne l'aurais pas écrit si je n'avais pas eu le prisme du fantastique. Je pense qu'en particulier dans ces années-là, les années 90, le cinéma de genre ou la littérature de genre ont véritablement formalisé des peurs qui étaient propres à ces années-là et à l'adolescence. Et moi, en tant que jeune spectateur, j'avais le sentiment, en voyant ces films ou en lisant ces livres, qu'ils me parlaient obscurément de mes propres peurs. Donc, revisiter ces années sans avoir recours à ce qui, pour moi, était vraiment de l'ordre d'une culture personnelle, intime, ça m'aurait semblé être un mensonge, en fait. Donc, dès le départ, je savais, et je pense que je portais ce désir d'écrire un livre fantastique ou horrifique depuis très longtemps, je savais que ce serait le parti pris du roman.
Et vous pensez qu'il y en aura d'autres, des livres avec ce parti pris-là ?
Alors, je ne suis pas certain de revenir, en tout cas dans l'immédiat, à l'écriture d'un livre pleinement horrifique.
Vous aimez bien changer ?
Oui, j'ai toujours le désir d'explorer des formes nouvelles. J'aimerais écrire un roman d'amour, par exemple. Ce que pendant longtemps, j'ai pensé être tout à fait incapable de faire. Bon, là, j'ai 43 ans, peut-être que le moment est venu, je me dis, on verra. Ce qui est certain, c'est que cette influence, c'est pas opportuniste, en fait, ce choix-là. Cette culture du genre, je pense qu'elle a, en réalité, influencé tous mes livres précédents aussi et qu'elle continuera de le faire. Elle a vraiment été constitutive de mon imaginaire.
Merci Benoît Autier, Jean-Baptiste Delamo, Mathieu Blé, vous restez avec nous. Dans un instant, on entrera plus en détail dans votre roman, Mathieu Blé. Écoutez, etc. C'était Alain Pachong, Sommes-nous ? Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Baptiste Delamo et Mathieu Blais.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, etc. Lilia Hassen.
Mathieu Blais, bonjour.
Bonjour.
Votre roman Brûlé debout, ça aurait pu être un roman d'amour, mais c'est un western revisité. Sans cow-boy, sans conquête, sans gloire, mais avec une bande de jeunes en cavale, un cheval bronco, un territoire brûlé et une vengeance féministe. Un western poétique, politique et brûlant qui retourne les codes contre ceux qui les ont écrits. C'était quoi le projet initial ?
Ben, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est clair. C'était retourner toute la société à l'envers, comme on retourne un gant, et voir qu'est-ce qui peut arriver si on se permet, dans une perspective très ludique. J'entendais Jean-Baptiste Delameau tout à l'heure le dire, qu'il avait retrouvé un esprit ludique en écrivant son texte. C'est exactement ce qui a animé mon écriture. Je me suis permis d'écrire sans frontières. J'ai ouvert la violence. J'ai ouvert les valves de la violence et mes personnages s'autorisent à cette violence-là. Donc, après ça, ben, c'est l'hypothèse qui a été posée. Après ça, j'ai suivi mes personnages dans cette quête.
Ben, on sent cette liberté, elle est contagieuse. Vous avez toujours aimé les westerns?
Non. En fait, les westerns sont très, très typés, sont très racisés même. Ils mettent en place des forces qui, aujourd'hui, n'ont plus vraiment cours.
Mais quand vous étiez petit, vous aimiez?
Non, pas tant, mais je sais. Moi, ce qui m'a surtout animé comme figure, c'est les hors-la-loi. Là, les bandits, ça
Bonnie
m'interpelle.
Bonnie and Clyde, ça, c'est... Voilà.
Oui, Bonnie and Clyde, ça m'interpelle. Et je pense que c'est davantage cette figure-là. Bien que le code du western, il est là au début.
On y pense quand même tout le temps.
Oui, c'est ça. Les fusils sont à la ceinture, on avance dans le bronco. C'est l'univers, je pense, de l'Amérique qui est tiré dans ce roman. Mais c'est la figure du hors-la-loi qui m'a vraiment animé.
Alors, ce qui fait la force de votre livre, c'est surtout sa langue singulière, poétique. Et j'aimerais que vous nous lisiez un extrait du prologue, qu'on entende la fougue de votre plume.
Dans les bois noirs d'Aïchinou, aujourd'hui, moi seul lis encore les signes. Tous les autres ont continué à brûler debout jusqu'à ce qu'ils retournent et se mêlent à la cendre de ce nombre pays qu'on aura viré à l'envers. Avant ma fuite, avant mes pas de traître, nous aurons existé ensemble autrement. Ensuite, ça aura été mon retrait dans mes silences parallèles. C'est de là que je nous raconte. Et pas une journée ne passe sans que je ne les maudisse tous. Eux et les descendants tarés de leurs fossoyeurs, ces fils de chiens et ces fils de sales, ces fils de maîtres. Les nuits d'Aïchinou sont froides à couper les chiens en deux, mais le feu de la vengeance est un feu qui brûle longtemps. Je garde les flammes hautes et vives et j'apprends à me dire, à nous raconter, j'apprends à nommer le tumulte qui a suivi nos embrasements et je n'oublie rien.
Alors, on vient de l'entendre, il y a une vraie colère dans votre écriture. D'où elle vient, cette colère, Mathieu Blais?
Ouf! Elle vient de... elle vient de loin. Mais si je m'en tiens uniquement à la dimension, disons, de l'âge adulte, je dirais qu'elle vient d'une révolte contre l'autorité. Je vais le dire comme ça, une révolte contre l'autorité. Je crois que toutes les figures d'autorité que j'ai pu rencontrer, à l'exception peut-être de mes parents, là, ont été des figures qui, jusqu'à un certain point, m'ont déplu. Ou ont montré des failles. Et à partir de là, j'ai construit une conscience... aujourd'hui que j'assume un peu plus, une conscience anarchiste, une conscience...
Ce que j'allais vous demander, vous êtes anarchiste en fait.
Ben en fait, je l'assume de plus en plus, oui. J'assume de plus en plus philosophiquement cette posture-là. Dans le livre, c'est assumé aussi, c'est une fable anarchiste. C'est clairement ça qui est posé comme postulat. Après ça, il faut voir où ça nous mène tout ça. Mais oui, j'assume cette posture.
Et est-ce que c'est un bon moteur pour écrire la colère?
Le premier recueil de poésie que j'ai écrit il y a 20 ans s'appelait « Que le cri détaché de ta colère ». Donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, 14 livres plus tard, je me retrouve avec Brûler debout, avec la même colère dans les mains. Donc je pense que c'est un bon moteur, mais où je suis un mauvais écrivain puis je trouve pas la voie de sortie.
C'est ça, la colère, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser en écrivant?
Forcément, oui.
Jean-Baptiste Delameau avait envie de réagir.
Mathieu, j'entends ce que tu dis sur la colère. En même temps, ce qui m'a frappé aussi dans ton livre, c'est la beauté de la langue. C'est son inventivité, sa poésie. Pour moi, j'ai trouvé quelque chose d'une énergie célinienne, mais qui en même temps n'appartient qu'à toi.
Oui.
J'ai été vraiment frappé. Je n'étais pas du tout surpris d'apprendre que tu étais passé par la poésie, parce que ton roman, il sourd la poésie, il suinte la poésie. J'ai été très, très impressionné.
Oh ben merci, j'accueille ça avec beaucoup, beaucoup de bonheur comme commentaire. Mais c'est effectivement la parole du poète qui se retrouve, je pense, maillée avec la parole du romancier. Et le personnage qui raconte François d'Octobre dans le roman, c'est comme il raconte, ça amène une parole de l'oralité. Et cette oralité, ben, c'est le rythme, c'est le beat, c'est ce qu'on va retrouver avec la route aussi, qui est dans le texte. Mm. Il me semblait tout à fait naturel d'aller puiser dans le rythme de la poésie pour nourrir le roman. Et tant mieux si ça le fait.
C'est vrai que j'ai pensé à Céline aussi, donc voilà, on est deux. Mathieu Blais, il y a près de vous quelqu'un que vous connaissez bien et qui vous a lu avec beaucoup d'ardeur. Bonjour Mac Viennot.
Bonjour.
Alors, vous êtes libraire à la librairie Médiapôle à Montréal et le roman de Mathieu Blais vous a conquis.
Ah oui, Lilia, Mathieu. C'est une ode à la liberté que j'ai lue. Un cri de révolte, un souffle de rébellion. Dans une langue âpre, crue, vous utilisez des gros mots, francs, purs, ressentis. On sent un besoin de violence. Vous avez un champ sémantique riche autour de ce thème. Mais on ressent aussi beaucoup de souffle de tendresse. Vos personnages sont construits dans des demi-teintes vives et nuancées. J'ai senti le fantasme de l'envie de la rébellion, le goût de l'aventure, le souci d'un appel politique ou tout simplement un ras-le-bol que vous avez déversé dans le livre. En lisant votre roman, plusieurs idées me sont venues en tête. La révolte est-elle un besoin ou une nécessité? La liberté passe-t-elle par une certaine vulgarité? La fin des sociétés est-elle un inévitable débordement de révolte?
Alors Mathieu Blais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez déversé votre ras-le-bol dans ce livre?
Ben, c'est pas mon ras-le-bol. Je pense que j'ai essayé d'être à l'écoute de quelque chose qui est dans les sociétés. Je vais parler de la société québécoise, mais je l'élargis aussi à la société nord-américaine ou aux sociétés nord-américaines. Et je pense que, enfin, je reviens de la Foire du Livre à Bruxelles et d'un passage à Paris, et j'ai l'impression que c'était là aussi, ce ras-le-bol-là, en Europe, enfin, en Belgique, en France. Et je pense que c'est dans l'air du temps. Alors, l'idée, tout à l'heure, je le disais, observer, entendre, essayer. L'auteur canalise. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. Depuis la fin de la pandémie, il y a, je pense, ce sentiment à fleur de peau où on est plus prêt à exploser, où on accepte moins. Après ça, les exemples sociaux sont nombreux. Des gilets jaunes jusqu'à l'assaut du Capitole, en passant par le convoi de la liberté au Canada, où les camionneurs sont allés occuper la capitale. Ce sont des symptômes, en fait. Et je n'en fais même pas une analyse politique. Ce sont des symptômes de ras-le-bol.
Ça, c'est une colère généralisée. Sans but. Elle a différents buts, mais c'est vrai que dans votre livre, elle s'incarne comme une forme de colère brute.
Oui, c'est ça, c'est brut. Et ils se font rattraper par l'idéologie politique vers la fin du roman. Ce sont des mouvances dans le roman, ce sont l'extrême-gauche qui vont venir les récupérer. Mais on comprend que les personnages ne sont pas eux-mêmes politisés. Ils sont juste dans ce ras-le-bol qui va s'exprimer par une colère. C'est pas l'apologie de la colère. Comme dans le roman de Jean-Baptiste Delameau, c'est pas l'apologie de l'horreur. Mais l'horreur et la colère ou la violence vont
servir... Mais vous traduisez ce que vous voyez, tout simplement. Ce que vous ressentez.
Ouais, ou j'annonce le pire. C'est ce qui est encore plus à craindre. La récupération de cette violence-là, ce ras-le-bol-là par la droite ou par l'extrême droite, n'est pas des bonnes nouvelles en soi.
Alors, au-delà de la révolte, Mathieu Blais, alors, Mike Viennot, il y a aussi dans ce livre une déclaration d'amour à tout un pays. Et cette déclaration, vous n'y avez pas été insensible en tant que libraire québécois.
Ah, pas du tout, j'avoue. Et j'aimerais ça vous faire avouer à votre tour, Mathieu, que ce texte est un grand fantasme, le fantasme d'une vie différente, le fantasme d'un Québec accompli, le fantasme délicat et romantique d'un territoire qui serait fixé par la fierté et l'audace. Cette audace, vous l'avez proposé un mouvement, une ignition des passions, cette ignition qui représente bien votre personnage de la Mélisse, cette femme troublante et insaisissable qui, par sa force et sa magnanimité, mène une troupe, Toussaint, Gagnon, Chicoine, Yassine, dans cette quête de liberté. Vengeance, liberté, réappropriation. Oui, je sens que ce roman pleure la perte d'une identité. Ce roman appelle à nommer le lieu, à le faire vivant et impénétrable, sauf pour ceux qui veulent s'y plaire. Imperturbable, sauf pour celles qui voudront s'y parfaire. Incalculable, sauf pour tous ceux qui voudront s'y enraciner. Vous citez souvent le nom pays. Moi, j'y vois l'esquisse d'un pays à s'affirmer. Votre roman n'est pas qu'un simple fantasme. En fait, il est une proposition. Proposition et réidentification, avec des personnages complexes, une situation urgente, des actions douteuses. Mais n'écrit-on pas la révolte sur papier comme on l'a fait sur le terrain, Mathieu? Et bien sûr, avec du cœur et des pleurs, comme cette phrase que vous avez écrite. Aujourd'hui, il fait ciel gris et murène verte entre les sapins. entre les sapins et les pins blancs. C'est beau, c'est doux, et c'est dans ces phrases que la révolte ronfle. J'ai une question pour vous. Selon vous, la littérature peut-elle être rassembleuse et créer l'étincelle pour changer le monde? Ou, autrement dit, au lieu de brûler des livres, peut-on espérer que les livres nous embrasent?
C'est une belle question.
C'est une belle question, mais ça va avec toute la philosophie que j'ai par rapport à la littérature. En fait, la posture que j'occupe depuis aujourd'hui 20 ans, c'est celle de l'engagement. Si j'écris, c'est parce que je crois effectivement que ça va de l'air prétentieux, mais ou naïf. Je crois effectivement que la littérature change le monde. Après ça, on comprend bien qu'on c'est pas en lançant un livre sur un tank que la guerre va arrêter ou on va pas faire des barricades de livres. C'est pas comme ça que ça s'agit, mais ça agit sur la psyché, ça agit sur les possibles, ça agit sur l'inconscient, ça agit sur la capacité qu'on a à se représenter un monde différent, un monde meilleur. Dans le livre Brûler debout, c'est la table rase. Donc, avant d'arriver à rêver, avant d'arriver à repenser le pays, avant d'arriver à revitaliser notre imaginaire, ben, mes personnages, ils font table rase. Donc, ils jettent tout à terre pour laisser repousser. Comme après un feu de forêt, il va y avoir des cocottes qui vont se mettre à pousser, les épinettes vont reprendre et la vie va reprendre. C'est cette image-là qui est derrière le roman. Mais oui, effectivement, la littérature est un engagement. Si on n'y croit pas, c'est qu'on ramène jusqu'à un certain point la littérature à son unique divertissement. Ce qui n'est pas un mal d'être diverti par la littérature, mais ce n'est pas une fin en soi. Non, enfin, ce n'est pas la fin en soi, non.
Merci, Mike Viennot. Alors, Mathieu Blais, Jean-Baptiste Delamoux, vous avez un point commun, l'amour de la nature. Dans votre roman, Mathieu Blais, il y a un passage que j'aime beaucoup. Vous écrivez « J'apprends à respirer sous le poids de la seule autorité que j'ai fini par tolérer, celle d'une nature revenue à elle-même, sans nous, sans l'ombre de nous, et qui exulte à nouveau comme un volcan, comme un tsunami. Et me voilà rempart à ce qui reste, à ce qui subsiste, une zone de préservation que je rêve d'entendre jusqu'aux limites de leur dogme incandescent et faux, cette consommation effrénée et débile que nous aurons à peine réussi à déstabiliser. » Alors c'est très puissant comme passage, et Jean-Baptiste Delamoux, je me suis dit que ce passage pourrait vous parler.
Oui, en effet, c'est vrai que c'est aussi une thématique qui m'occupe et un rapport même au monde qui est très important pour moi. J'ai la chance de vivre à la campagne en contact avec la nature, avec les animaux. Et en même temps, j'ai aussi cette perception de la façon dont nous avons épuisé cette nature, dont de nombreuses espèces d'insectes, par exemple, ont totalement disparu. Donc à la fois, j'ai ce lien très précieux, mais qui est aussi empreint de nostalgie, parce que je me souviens de ce qu'étaient ces territoires à l'époque de ma jeunesse, de mon enfance, et combien ils ont changé, combien les oiseaux, par exemple, se sont tus. Et c'est un entre-deux, ça m'apporte à la fois beaucoup de bonheur et d'apaisement, et j'ai toujours cette forme de mélancolie aussi aujourd'hui.
Mathieu Blais, ça vous parle ?
Ben oui, bien sûr. En fait, on est probablement de la même génération, Jean-Baptiste Delamoux et moi. La nature, on l'a vu, on a entendu les discours environnementalistes prendre de l'espace. On n'entend pas les espèces, mais on entend la nouvelle sur les espèces qui disparaissent, qui s'éteignent. Moi, quand j'ai fini d'écrire Brûler debout, c'est une anecdote qui me semble importante, en tout cas intéressante à raconter. Quand j'ai fini Brûler debout, moi j'étais dans mon camp, en tout cas dans la forêt, et je suis sorti dehors, il y avait de la fumée. Je suis sorti de ma petite forêt et je suis arrivé en ville et Montréal était sous la fumée. Il y avait à l'époque des feux de forêt qui brûlaient dans la forêt boréale. La fumée descendait jusqu'à New York. Pour moi, c'était cette nature refuge qui tout à coup me jetait dehors, qui tout à coup me disait « Non, non, ça ne sera pas ton espace où tu pourras te retrancher, la forêt va brûler. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. » Ça, c'est des signes qui, concrètement, ne trompent pas et qui ébranlent beaucoup, beaucoup, beaucoup lorsqu'on est en contact avec cette nature.
Et vous allez même plus loin, là, dans le texte qu'on vient de lire, puisque vous parlez d'une nature revenue à elle-même sans nous, sans l'ombre de nous.
Oui. En fait, le roman postule cette idée de la fin de l'Anthropocène et finit par dire que quelque chose... En fait, le personnage principal se retire de la quête politique du groupe et finit par se dire que la seule chose qui a du sens, ce serait de défendre la nature contre les hommes ou contre les femmes, là, enfin contre l'humanité, qui est une humanité extractrice. On n'a pas d'exemple contraire. Alors à partir de là, c'est comme si le constat, c'était de dire qu'on s'était trompé d'équipe. Mais du moment qu'on s'est trompé d'équipe, dans quelle équipe on va jouer? C'est plus problématique.
L'équipe des écrivains. Ouais. Mathieu Blé, Jean-Baptiste Delamo, merci beaucoup.
Merci à vous.
On se retrouve dans quelques instants pour les conseils lecture de la semaine. Mais juste avant, on écoute Yoa, Princesse K.O.
Oh non, c'est pas vrai. J'ai un peu trop laissé parler la petite voix dans ma tête. Oh non. C'est difficile de pas l'écouter quand elle te répète. Tu es de celles qui n'avancent pas au bon endroit, de celles qui trébuchent à chaque pas. C'est toujours au cœur du chaos que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma réalité. Non, je n'ai pas peur, je vais tout abîmer. Jouir jamais et tout recommencer. Me perdre, je ne peux l'éviter. Confondre, je t'aime et je suis désolée. J'attends les sirènes qui viendront me sauver. Faire mal à mes peines pour tout recommencer. Oh non, c'est pas vrai. Je suis au creux de l'ouragan, peu importe où je vais. Oh non, comment faire? J'ai, il me semble, un certain talent pour tout foutre en l'air. Je suis de celles qui recommenceront 10 fois afin d'apprendre à marcher droit. C'est toujours au cœur du chaos que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma rêve.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Blay et de Jean-Baptiste Delamo. Et on accueille tout de suite une autre libraire canadienne. C'est l'heure du coup de cœur de la semaine.
Lilia Hassen, Etc.
Et nous retrouvons votre collègue Maglino. Il s'agit de Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête à Montréal. Bonjour Katia.
Bonjour Lilia, bonjour à tous.
Alors vous êtes vous aussi en studio à Radio-Canada et vous nous parlez d'un auteur qui sera en dédicace au Salon international du livre de Québec le week-end prochain.
Oui, absolument. Je vous parle de Patrice Lessard qui a publié plusieurs livres déjà, entre autres aux éditions Héliotrope, dont les titres Le Sermon aux poissons, et je vous les nomme les titres parce que je trouve ça vraiment déjà parlant, Le Sermon aux poissons, Nina, L'enterrement de la sardine, ainsi que des polars, Excellence Poulet, Cinéma Royal et La danse de l'ours. Alors, avec Rapine, qu'il publie cette fois-ci aux éditions XYZ, il crée un livre inclassable. Je dirais un magnifique ovni qui oscille entre roman, essai philosophique et littéraire. Et comme si cet heureux dépaysement n'était pas encore à son paroxysme, il faut dire que cet écrivain québécois aime beaucoup voyager et écrire à l'étranger. Il nous plonge donc cette fois-ci au cœur de la ville de Naples. Le narrateur, dont le nom se résume à une seule lettre, P, ça pourrait être à la fois Patrice Lessard, sans être lui-même non plus, parce que tout ici est un faux roman, ou presque. Alors, P est un employé de banque qui n'a aucune passion pour son travail. Il se réfugie souvent donc dans un bar où il y rencontre une petite communauté, dont Eduardo, comédien et parfois metteur en scène, qui, lui, projette l'écriture d'une pièce de théâtre où il sera question de vol, de corruption et, évidemment, de Naples.
Et c'est là que tout devient théâtre, chère Katia.
Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que, en fait, tous et chacun vont alimenter de leurs réflexions la création de ce projet dramatique qui se forme littéralement sous nos yeux. La langue y est soutenue, jouissive, et l'auteur ne gêne pas pour y ajouter des parenthèses et des digressions qui toujours vont amplifier son récit. En fait, cette pièce de théâtre qui se construit sous nos yeux est le roman même que nous sommes en train de lire. Ce que j'ai aimé dans ce livre brillant, en plus de découvrir la ville de Naples, qui est magnifique dans tous ses détails et ses complexités, une partie de son histoire de cette ville, et c'est connaître aussi un peu ses habitants, cette histoire de tout ça, c'est en abordant plusieurs sujets philosophiques tels que le bien et le mal, la mort, l'auteur ne s'éloigne jamais de son humour que j'ai adoré. Par l'entremise de l'ailleurs napolitain, Patrice Lessard nous offre une lecture vibrante et foisonnante que je conseille à tous les amoureux de la langue, du dépaysement et de la philosophie.
Merci Katia, on conseille donc Rapine de Patrice Lessard aux éditions XYZ, pardon, et en dédicace au Salon du Livre de Québec. Alors avant de terminer cette émission, j'avais une dernière question pour vous deux, Jean-Baptiste Delamo. Votre prochain livre, donc, ce sera un roman d'amour.
Qui sait, peut-être, en tout cas aujourd'hui j'en ai envie. Après, est-ce que je serai capable de l'écrire, je n'en sais rien, mais voilà, j'y travaille intérieurement, en tout cas.
Et qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire ce genre de livre?
Ben, déjà, de me frotter à une thématique qui me semblait impossible de revisiter jusqu'à présent. Je me disais qu'après Proust, écrire sur l'amour, c'était vraiment impensable. Mais en effet, je crois qu'arriver à ce temps-là, à cette heure-là de ma vie, quelque chose qui peut-être me parle plus, sur quoi j'ai un peu plus de recul, voilà.
On va suivre ça de près. Vous, Mathieu Blais, votre prochain livre, vous avez commencé?
Mais en fait, j'en ai un autre qui vient de sortir récemment, qui est un roman jeunesse. Oui, c'est un roman jeunesse dont je m'adresse aux tout-petits, entre 6 et 11 ans, quelque chose comme ça. Initiation à la lecture. C'est une histoire de pirate et il n'y a aucun mort, je rassure tout le monde. Aucune violence, ça va bien. Alors, mais c'est très, comment je dirais, rafraîchissant.
Il s'appelle comment
comme
ce livre?
C'est Les aventures du capitaine Corso. Donc, on suit un capitaine de piraterie dans un monde imaginaire, donc avec des batailles. C'est vraiment un roman de cap et d'épée, là. Que du plaisir.
Encore dehors la loi.
C'est encore dehors la loi, oui, bien sûr.
Vous êtes incorrigible. Écoutez, merci beaucoup. Merci Mathieu Blais. C'est la fin de cette émission. Merci à vous aussi, Jean-Baptiste Delamo, pour votre très belle Nuit ravagée, publiée chez Gallimard. C'est bien simple, si vous commencez ce roman, vous ne pourrez plus le lâcher. Il est addictif, en plus d'être extrêmement bien écrit, ce qu'on a dit et redit. Je conseille aussi Brûler debout, de Mathieu Blais, donc, aux éditions de Noël. Une langue incandescente, pleine de rage, qui fait beaucoup de bien par les temps qui courent. Je signale à nos auditeurs que vous serez, Mathieu Blais, au Salon du Livre de Québec les 11 et 12 avril prochains, c'est ça?
Exact, oui.
Voilà, merci également à nos libraires du jour, Katia Courteau, Mike Viennot et Benoît Autier. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter en coproduction avec les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Estelle Gab, Virginie Rouzic, Manon Grandière. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.